I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est le dernier épisode de la saison et en plus le dernier épisode avant une petite coupure pendant l'été. Et on va parler justement de résilience. Donc un sujet qui, en tout cas, est beaucoup plus peut-être porteur de quelque chose de plus résilient, justement positif face au dernier sujet que j'ai pu aborder. Même si vous vous doutez bien que je vais un petit peu aussi critiquer ce concept-là, parce qu'il a beau envoyer plein de fleurs, il n'est pas si évident que ça. Et puis, comme j'ai toujours l'habitude de penser, la théorie, c'est très chouette, hein, c'est beau, ça, on en a besoin, mais quand c'est confronté à la pratique, on se rend compte souvent qu'il y a un écart, et donc il faut pouvoir réactualiser en permanence dans ces allers-retours-là. Et donc, même si j'aime beaucoup ce concept, des fois il est un petit peu utilisé à toutes les sauces. En tout cas, on voit bien que dans la résilience, c'est quand même l'idée qu'il y a des traumatismes graves qui révèlent des ressources parfois inimaginables chez des personnes, même un ensemble de difficultés de vie, comme par exemple une maladie chronique, va révéler une vraie résilience, alors que d'autres, justement, ne pourront pas se lever ou se relever, auront beaucoup de difficultés. Et c'est vrai que ça questionne énormément. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être résilient? Qu'est-ce qui fait qu'on ne le serait pas? Est-ce que déjà il y aurait une partie des individus qui le serait, une partie qui ne le serait pas? Ça serait quand même assez triste. Donc est-ce que ça serait quelque chose de inné, de acquis? On va essayer en tout cas de penser un petit peu plus à cette question. Parce que la résilience, c'est quelque chose justement, où je l'annonce directement, qui est dynamique. Pour moi, ça se crée, ça se nourrit, ça peut être remis en question, ça peut être perdu, mis à mal, retrouvé, évolué, etc. Donc pour moi, je sors un petit peu du côté immuable de la résilience, comme on pourrait l'avoir un petit peu dans la définition physique. C'est-à-dire qu'en physique, la résilience, c'est l'aptitude d'un corps à conserver sa structure en tant que telle, et quelles que soient les pressions du milieu. Donc il y en a beaucoup qui ont utilisé ce terme de résilience pour dire que ça serait un petit peu pareil chez l'être humain, c'est-à-dire que on peut ne pas valser, quel que soit en fait ce qu'on nous envoie. Donc quelles que soient les pressions qu'on pourrait avoir de l'environnement, les événements, etc. Chose que je suis pas vraiment d'accord avec cette idée-là. Mais c'est une bonne base en tout cas pour la pensée. Alors, au départ en fait, la résilience, il faut le voir que c'était un concept qui était pensé surtout pour les enfants qui avaient vécu des choses assez dramatiques. Donc on se disait, comment des enfants ayant vécu dans un environnement qu'on peut dire pathogène, c'est-à-dire peu adapté aux besoins, que ce soit affectifs, sociaux, physiologiques, des enfants, ben pourtant, comment ça se fait qu'il y en a une partie qui vont quand même développer des ressources pour grandir, pour s'adapter socialement, sans avoir justement des répercussions envahissantes pour l'avenir. Et après, ça a été aussi projeté à l'adulte, mais aussi au groupe. Parce que des fois, on entend parler de groupes résilients. Alors pour l'enfant, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il peut y avoir des prédispositions à plutôt appuyer sur des mécanismes de protection, de résistance, soit plutôt à développer peut-être plus de difficultés. Alors moi je le vois pas comme quelque chose où il y a des enfants qui ont le bouton des ressources et d'autres qui ne l'ont pas. ou des enfants qui ont le bouton juste des difficultés. J'imagine qu'on a tous la même palette de boutons, c'est juste qu'on va peut-être pas tous avoir les mêmes capacités, que celles-ci soient innées ou acquises, à saisir ces ressources-là. Et d'ailleurs, ça complique les choses pour les chercheurs, parce que on peut aussi, à certains moments donnés, avoir appuyé sur certains boutons et ne plus appuyer dessus après, et inversement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont même développer des troubles psychopathologiques, des difficultés qui sont très prenantes dans leur construction, et qui pour autant, en devenant adultes, sont des adultes qui fonctionnent et qui vont très bien. Donc ça prouve qu'en fait on peut utiliser à un moment telle palette et une autre après. Donc, et heureusement. Et inversement, des enfants qui vont avoir pu bien se développer et pour autant qui vont rencontrer d'autres difficultés adultes. Donc ça peut montrer qu'il y a quelque chose de dynamique, mais aussi peut-être qu'on ne naît pas totalement table rase. Bon, ça c'est une autre question, mais en tout cas l'équilibre entre des peut-être prédispositions et quelque chose qui s'adapte, qui grandit avec l'environnement. Donc il y a deux types de situations où on pense en termes de résilience, en tout cas ce qui est dit par les théoriciens. Donc il y a les situations où, comme je disais, il y a des personnes qui ont grandi dans un environnement qu'on pourrait dire pathologique ou pas adapté, en tout cas pas suffisamment bon en soi pour un enfant, mais pour autant celui-ci pourra développer des capacités adaptatives, se sentir bien, évoluer intellectuellement, socialement, affectivement, etc. Et puis il y a la résilience qui est beaucoup parlée aujourd'hui pour les personnes qui vivent un traumatisme et qui arrivent donc après à surmonter, à se reconstruire après cette épreuve. Et donc on a tendance à penser les individus avec des vulnérabilités et des ressources. Alors la résilience, déjà, qu'est-ce que c'est en soi? Enfin, en tout cas, comment ça peut se construire? C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose qui se co-construit, je pense qu'on peut en être sûr, entre l'interne et l'externe, et qui se développe, évolue. Et je pense que dans un environnement externe, qui ne serait pas bienveillant, ou en tout cas qui apporterait pas suffisamment pour se construire, l'interne peut prendre ressources et s'appuyer sur une unique source externe, par exemple un adulte qui aurait un regard porteur, donc pour un enfant qui serait dans des difficultés, dans des relations précoces, etc. Donc il peut peut-être se saisir d'un point externe, même si celui-ci est minime, mais pour continuer à se nourrir d'un point de vue interne. Et à l'inverse, on peut aussi être dans un environnement bienveillant, en tout cas sécure, et pourtant avoir du mal à mobiliser les apports qui peuvent être étayants. Ou être dans un environnement pas forcément sain, mais ne pas arriver à saisir des ressources qui pourraient permettre de sortir de cet état-là. Donc on voit qu'il y a vraiment l'idée que ça peut varier avec l'ensemble des facteurs qui nous entourent, mais aussi les interactions entre ces facteurs-là, et parfois augmenter les impacts positifs et donc favoriser la résilience. En tout cas, on peut penser la résilience dans cette capacité à se défendre et à se réparer. Donc ça, c'est ce qui est dit quand on parle de résilience. Et moi, j'ajouterais à se réorganiser dans un nouvel état. Donc, c'est-à-dire qu'être résilient, donc, c'est pouvoir se défendre, pouvoir se réparer, mais aussi, selon moi, se réorganiser. Vous l'avez entendu souvent par les derniers épisodes. Moi, je parle souvent du fait que c'est assez illusoire d'avoir envie d'être dans un état antérieur et de ne pas avoir envie de bouger ou de retrouver ce temps-là, mais qui pour moi est assez impossible, et heureusement, et je pense que dans la résilience, il y a ça aussi. Donc on peut vivre quelque chose, s'en défendre, se réparer, et en plus l'intégrer comme quelque chose qui va nous réorganiser, faire des remaniements, et donc être un être justement dynamique. Donc on dit souvent qu'on peut être résilient grâce à trois axes de protection. Donc il y a l'axe autour de de l'individualité, de l'internalité de la personne. Donc le fait, voilà, peut-être quelque chose qui serait propre à soi, propre aux personnes, à la personnalité. Il y a aussi l'axe de l'environnement, donc qui soit affectif, familial, donc quelque chose de bienveillant, qui pousse, qui encourage, qui donne une estime par le regard. Et puis il y a aussi l'axe du groupe, donc des relations en dehors de la famille, que ce soit la société, les amis, l'identification à certaines personnes qui vont nous permettre de justement s'encourager et se nourrir pour sortir des fois d'un état, etc. Donc ça serait les trois axes en tout cas de protection qui seraient possibles pour mettre en place des capacités de résilience. Alors comment ça pourrait aussi s'opérer la résilience? Ça fait aussi moult débats. En tout cas, si on prend l'exemple du traumatisme, si vous avez entendu mon épisode dessus, donc il y a l'idée d'une bombe interne, et qui dit bombe dit secours. On éteint le feu, et quand on éteint le feu, et ben c'est le feu qui est le plus important, et donc de pouvoir l'éteindre. Donc on fait pas attention à ce qui brûle, ou à comment on va pouvoir réparer à ce moment-là. La maison brûle, on éteint. Et on éteint avec ce qu'on a. Donc c'est le principe de l'urgence dans la défense. Donc le premier temps du trauma, on a pu le voir, il peut y avoir des manifestations de déni, de sidération, parce que c'est la première défense là qu'on a trouvée pour sortir du réel en tant que tel. Puis il y a tout un temps pour ce processus autour du traumatisme, pour intégrer, ramener de la pensée autour de cela, comme j'avais proposé dans mon épisode. Puis donc, on peut se dire qu'il y a la résilience qui va se développer quand il y a aussi une forme de mise de côté de la situation urgente et donc des mécanismes de défense qui avaient été mis en place pendant le feu. Donc on arrête d'éteindre le feu parce que ça ne brûle plus et on va pouvoir commencer à réparer, à reconstruire, donc à mettre en place des réponses plus souples avec notamment de la créativité, de l'intellectualisation, du partage, etc. C'est-à-dire qu'on ne refera pas exactement la même maison. Les pièces qui auront brûlé, on n'aura pas exactement la même cuisine. Et pour moi, la résilience, c'est qu'en fait, la cuisine, ça sera une nouvelle cuisine. Et peut-être que justement, on va en créer quelque chose de encore plus pratique, fonctionnel, peut-être avec beaucoup plus de créativité, d'affection dans les nouveaux meubles, dans notre façon de les penser, de les créer en famille, de les partager. Enfin, vous voyez ce que je veux dire autour de la métaphore de la maison brûle. Ben, la résilience, ça serait ça. Ça serait ce dernier temps où on a utilisé donc l'extincteur, on a après réparé, et maintenant on construit quelque chose de nouveau et qui peut-être donc peut être encore plus avoir plus d'impact positif. Et on n'est plus dans l'état antérieur. Alors pour parler de résilience, je pense que c'est assez important de parler de Boris Cyrulnik, qui est donc un neuropsychiatre psychanalyste qui a travaillé sur l'attachement et donc la résilience. Et on parle beaucoup de lui, souvent quand on parle de résilience, parce que c'est vrai que c'est lui qui a en tout cas beaucoup plus vulgarisé, mais aussi théorisé ce concept-là. Il a rendu plus accessible et plus pensé dans la société. Mais je pense que pour comprendre aussi comment Boris Cyrulnik il a développé ce concept, il faut peut-être pouvoir connaître son histoire. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà lu ou entendu, mais j'ai trouvé ça assez intéressant quand on me l'avait raconté. C'est qu'en fait, Cyrulnik il vient d'une famille d'immigrés juifs. Et je crois que sa mère était polonaise et son père russe, il me semble. Et lui, il est né en France. Et en fait, donc, quand il y a eu l'occupation, donc en 1900, je crois que lui, c'était dans les années... Enfin, l'histoire s'est passée, je crois, dans les années 1940 ou 42. Enfin bon, quand il a été confié, en tout cas, dans une pension pour ne pas être déporté. Et après, il a été confié aussi à une institutrice qui, donc, le cachait, en fait, chez elle et s'occupait de lui. Et puis un jour, Donc il y a eu une vague, des mouvements, du bruit où en fait tous les enfants juifs du coin devaient se rendre à la grande synagogue, je crois, de Bordeaux. Et en fait, ils se faisaient arrêter un à un, ils devaient suivre, en tout cas, les représentants à l'époque de l'ordre. Et en fait, donc, Boris Cyrulnik, alors qu'il était enfant, il décide de se cacher dans les toilettes et donc de ne pas aller dans la même direction que tout le monde. Et il va attendre qu'une infirmière vienne le libérer. Et il a échappé justement à la déportation ce jour-là. Bon, je pense que j'ai dû oublier certains détails, parce que là c'est un petit peu de mémoire que je vous la raconte, et je pense que c'est intéressant de lire un petit peu plus sa biographie si ça vous intéresse, chose que je n'ai pas fait, donc voilà, je vais peut-être pas aller plus loin. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant pour penser à ses recherches et sa vocation après de psychiatre. Et on peut se demander si justement, en tant qu'enfant, le fait qu'il n'ait pas suivi le groupe, qu'il ait eu donc cet instinct de survie, est-ce que ça serait pas déjà une forme de résilience ? Donc j'ai pas lu encore une fois sa biographie, mais peut-être qu'on peut supposer qu'il avait un environnement suffisamment sécurisant pour mettre à profit la confiance en son instinct, en l'écoute de la situation. Parce que Cyrulnik, justement, il parle beaucoup de résilience et d'attachement sécure. C'est-à-dire que quand on est sécurisé d'un point de vue interne, pour pouvoir penser et agir à l'externe, ça a du sens. Et potentiellement, son attachement donc sécure lui a permis de ne pas monter dans le train, de ne pas suivre en tout cas cette vague-là. Et donc l'importance du regard de l'autre qui va nous permettre cette construction, et donc de nous permettre de développer cette résilience. C'est-à-dire qu'un enfant, si on pense qu'il peut s'en sortir, comme un adulte, ça va conduire à une estime et à l'envie de s'en sortir. Si on pense qu'un enfant il a des capacités donc pour répondre à une situation, qu'on peut avoir confiance en lui, une estime, et qu'il peut se saisir de son instinct et de son écoute, et ben automatiquement il va le développer. À l'inverse de justement si on pense qu'un enfant est incapable, n'a pas de discernement, etc. Et encore une fois, la résilience, c'est pour ça qu'elle peut être aussi mise en critique, parce que j'explique ce point de vue dynamique qui pour moi est primordial, c'est-à-dire que même un enfant à qui on peut dire toute sa vie qu'il est incapable, il pourra se sentir capable un jour. Et ça c'est vraiment important, parce que des fois je trouve que la résilience donne ce côté où certains n'en seraient pas capables de l'être. Donc sans s'en rendre compte, ils ne sont pas résilients parce qu'ils pensent ne pas pouvoir l'être, donc ça opère cette incapacité. Donc en tout cas, à l'idée par exemple de Cyrulnik et de ce qu'il a vécu, je pense que selon moi ça amène l'idée qu'on n'est pas uniquement dans l'après-coup, donc on vit un traumatisme et après on peut être résilient, mais qu'en tout cas c'est quelque chose qui se pense au cours de la vie, et pas que dans des situations traumatiques. C'est-à-dire qu'au moment du chaos par exemple, on peut imaginer qu'un enfant en fait a déjà une enveloppe de résilience, sûrement donc voilà, construite et par lui, mais aussi par l'affectivité, la confiance, l'estime, la stabilité dans ses premiers liens. Et c'est cette confiance-là qui va lui permettre de chercher des ressources qui vont le porter plutôt que celles qui vont le condamner. Donc lui-même va chercher à se développer comme si c'était quelque chose de primitif. Ce qui fait que ces enfants-là, mais aussi donc ces adultes qu'on peut dire résilients, auront plus de capacité à être des personnes qui se laissent aller à la rêverie, à se raconter des histoires, à penser et se penser, à intellectualiser certaines situations, à aller vers les autres, ainsi de suite. Et même donc dans l'effet le plus brutal, le plus traumatique, ils vont pouvoir être dans le déni ou dans la mise à distance en premier temps pour se protéger. C'est-à-dire qu'avoir des défenses aussi qui bousculent totalement, ça fait aussi partie de la résilience. Et puis après, donc ils vont pouvoir, encore une fois, être dans ce processus dynamique, souple, pour créer quelque chose de tout ça, être dans une possibilité d'apporter quelque chose, je sais pas, moi, dans la communauté, dans la société, en termes d'expression. Donc certains vont peut-être exprimer leur résilience en racontant leur histoire, en chantant, en faisant du théâtre, mais aussi en, en écrivant ou en rejoignant des associations, enfin, en créant des vocations professionnelles, enfin, ainsi de suite. Donc, Cyrulny qui parle de 4 points de la résilience, donc il y a la construction précoce. Je crois que lui, il utilise le terme d'échafaudage, il me semble. Donc, c'est-à-dire comment la personne, même toute petite, elle se muscle son soi, donc sa confiance, son estime. Ensuite, il y a la capacité à avoir des défenses lors d'une situation qui en demande. Donc, ça peut être voilà des défenses totalement chaotiques parce que c'est le chaos. Et puis après, donc en troisième temps, la capacité à réorganiser les défenses. Et donc la recherche de ressources, avec même des fois des nouveaux... alors lui, je crois qu'il parle de tuteurs de développement, de protection, donc par exemple chez l'enfant, donc avoir des nouvelles figures qui vont pouvoir permettre de se développer. Et en dernier point, donc la capacité à exprimer, raconter et se raconter. Donc comme l'identité narrative de Paul Ricoeur. Enfin, en tout cas, moi je le mets en lien... avec ce concept-là dont j'avais parlé dans le premier épisode. Alors, je voulais finir un petit peu sur les critiques autour de la résilience. Donc, critiques qui sont pas forcément négatives, mais je pense qu'elles sont importantes d'avoir en tête, c'est que on est dans un temps où c'est assez à la mode hein, d'être résilient, donc enfin le terme en tant que tel. Et en fait, il est parfois mis en avant là où ça n'existe pas, ou alors valorisé dans des situations où ce n'est pas le cas et ça ne devrait pas être le cas. Par exemple, donc, justement, après un deuil, comme on a pu en parler dans mon épisode précédent, la personne qui, justement, partirait directement travailler, continuer sa vie comme avant, ne serait pas bousculée par l'événement en tant que tel, ça c'est pas de la résilience, c'est pas le fait de ne pas avoir bougé qui est résilient. Donc si on reprend par rapport à mon introduction, c'est pas comme en physique où on nous bouscule, mais en fait malgré les pressions ça change pas. Il peut y avoir un déni de certaines difficultés ou alors quelque chose de suractif pour ne pas laisser de place à la peine, à la souffrance, etc. Et pour moi, c'est pas de la résilience, parce que la résilience, elle suppose un avant et un après. On est résilient quand, justement, après un deuil, on a pu être triste, on a pu être en colère, on a pu être ravagé, voire même pendant des semaines, des mois, et qu'on peut réapprendre petit à petit à réinvestir la vie et à recréer. Donc encore une fois, la question de la création dans l'après-coup. Et en fait, souvent, le problème de la résilience aussi, c'est qu'en fait, elle se fait vite couper l'herbe sous le pied, si je peux dire. C'est que, donc, on est dans une société où faut absolument être résilient, et pour autant, on laisse peu de place à celle-ci pour se développer. On laisse peu de place aux personnes d'être résilientes. C'est-à-dire qu'on assiste vite à une dépendance de la société, c'est-à-dire qu'à la moindre bascule d'une personne, on a tendance donc à vite donner des médicaments, des traitements, on prépare des plans d'action qu'on apporte à l'autre, qui sont souvent les plans d'action qui fonctionnent pour nous, et donc on a l'impression qu'il faut directement les donner aux autres. Et des fois, ça renforce même en fait le sentiment d'incapacité à être résilient et donc à développer des propres mécanismes de remaniement pour soi-même. C'est un cercle sans fin parce que, en fait, on prend parfois peu le temps de développer ses propres ressources parce qu'on nous accable des ressources trop rapidement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le système vous donne des ressources avant même qu'on puisse essayer d'en trouver des propres et des personnels. Également, par exemple, quand une personne, elle commet des délits, entre guillemets, enfin en tout cas ce qui va être considéré comme quelque chose de l'ordre du délit par la société, ou alors, par exemple, quand une personne se retrouve dans des situations de précarité, de difficulté de vie, on a vite tendance à penser que la personne est responsable pleinement de leur situation, sans chercher en fait à comprendre qu'est-ce qui les précipite dans ces positions, comment ils en sont arrivés là et comment donc ils pourraient se ressaisir ou créer des nouvelles ressources. Par exemple, il y avait une étude, alors je me souviens plus du tout parce que j'en ai entendu parler il y a des années, mais faudrait que je la retrouve. Si je la retrouve, j'essaierai de vous la faire passer. Je ne sais pas comment, mais je l'ai en tête. Donc, ça montrait qu'en fait, il y avait des difficultés autour des aides pour les personnes qui sont sans domicile fixe, qu'en fait, il y avait beaucoup de situations qui étaient mises en échec, parce que par exemple, quand en fait, on donnait un logement comme ça à une personne qui était dans la rue, et ben en fait, dans plusieurs situations, ça pouvait devenir au bout de quelques temps un squat, ou alors donc la personne donnait son logement à d'autres personnes, elle se retrouvait de nouveau dans la rue, ou alors voilà, il y avait des situations en tout cas qui étaient mises en échec où la personne, des fois, quelques mois, voire quelques semaines après, était de nouveau sans domicile fixe. Donc le fait qu'en fait de juste sortir la personne comme ça, de lui dire bah tiens, en fait, prends un appartement parce que ça suffit, tu es sans domicile fixe, je te donne un domicile fixe, ben en fait ça ne suffit pas pour la personne, en tout cas pour une bonne partie, pas tous, parce qu'encore une fois ça dépend les situations, mais il y avait vraiment une mise en lumière de cette problématique là. Et pour moi c'est exactement ça le problème, c'est qu'on pense que c'est l'assistanat qui règle tout, au lieu de comprendre qu'est-ce qui fait que cette personne en soi est sans domicile fixe. Donc ça veut pas dire que justement elle en est responsable et donc il faut pas l'aider en termes de logement. Hein. Donc vraiment là j'essaye de faire attention dans mes propos, mais en fait c'est vraiment de se dire que ça ne suffit pas, mais que pour que ça ait du sens, il faut aussi comprendre qui est cette personne, ce qu'elle vit, comment l'aider à se reconstruire ou à se construire, et lui permettre à cette personne d'être elle-même aussi active dans sa résilience et dans ses propres ressources. Donc bon, là, c'est un peu une critique un petit peu de certaines représentations de la résilience, ou en tout cas comment celle-ci, elle peut être mise en échec avec le système. Donc voilà, je voulais vraiment faire un point sur la critique de l'utilisation de la résilience, mais aussi la critique de, des fois, sous couvert, de l'idée qu'il faut tous être résilients, bah en fait, on parasite la résilience en tant que telle. Dans un système judiciaire, par exemple, où on va apporter tout ce qui ne fonctionne pas chez l'autre, qu'est-ce qui fait que cette personne doit être enfermée, punie, etc. Et en fait, on en oublie de valoriser ce qui peut fonctionner, comment ceci va pouvoir être mobilisé, pour que justement la personne puisse développer cette résilience-là. La prison, ça devrait vraiment permettre une ouverture pour la suite et pas quelque chose qui enferme, voire qui radie totalement une potentielle porte de sortie. Enfin, si on peut parler donc de prison. Bon, je passe à autre chose parce que là je déborde, mais bref. Donc en tout cas, il peut avoir des actes réactionnels à certaines situations traumatiques. Par exemple, le fait de ne plus pouvoir être un parent adapté dans certaines situations. Suite, je sais pas, à une dépression par exemple grave postpartum, et pour autant il peut avoir une résilience potentielle aussi si la personne est suffisamment accompagnée pour retrouver ses ressources et se remobiliser. Mais ça ne fonctionnera pas si on tient cette personne comme responsable, coupable et donc éloignée de tout ce qu'elle pourrait mettre en place pour retrouver ses capacités de mère ou de père, par exemple. Voilà. En tout cas, je pense que la résilience, c'est quelque chose, encore une fois, qui se développe, qui est dynamique, qui évolue. Donc, pour moi, on est automatiquement tous des potentiels résilients, enfants mais adultes, et les ressources peuvent évoluer, en fonction de la stimulation, de la reconnaissance, du regard de l'autre, de l'environnement, de nos capacités internes, etc. Donc, ne pas être inscrit dans une case de « je suis résilient » ou « je ne suis pas résilient », mais comme quelque chose qui se pense tout autour de la vie. Et d'ailleurs, je conseille de lire de Bernard Gols, c'est « La résilience avant l'après-coup » ou « Tous les enfants de mères déprimées ne deviennent pas Sigmund Freud ». Il y a trois petits points, Sigmund Freud. Et c'est très intéressant parce que justement, il évoque beaucoup de concepts autour de la résilience, et donc le fait que Freud, c'est ce paradigme qu'il aurait eu, une mère déprimée et qui serait devenu Freud, du coup. Et pour autant, on a tous ceux qui ont eu une mère déprimée ne sont pas devenus Freud, heureusement ou pas pour vous. En tout cas, il évoque voilà ces concepts autour de ce qui vient construire, déconstruire la résilience, notamment par exemple avec la rêverie maternelle. Et puis la critique aussi, comment elle est utilisée aujourd'hui, et l'importance de comment ça se construit chez le jeune enfant au-delà d'un après-coup traumatique. Voilà. En tout cas, je termine cet épisode et donc cette saison. Et voilà, je voulais juste vous dire que là, je vais faire une petite coupure pendant l'été parce que je pense que là, vous avez eu beaucoup d'épisodes. Mais une coupure qui appelle quand même à un ou deux épisodes à voir si j'en ai le temps et l'envie bonus. Donc en fait, je vous laisse me poser donc sur mes différents réseaux, donc Facebook, Insta, ou sur mon adresse mail directement lecomptoirdelapsychologie@gmail.com, me poser différentes questions. Donc des questions peut-être sur tous ces épisodes que j'ai fait là ces derniers temps, peut-être des choses que vous n'avez pas compris ou vous aimeriez que je revienne dessus, des idées de thématiques à aborder, donc ça j'y répondrai pas directement, mais si vous avez envie je pourrais le noter, et ou alors des questions peut-être de petits sujets qui mériteraient quelques lignes sur mon avis, et dans ce cas-là j'enregistrerai, oula c'est difficile, un épisode bonus pendant l'été, avant qu'on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison, donc avec des nouvelles thématiques. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon été, j'attends vos retours, vos questions, profitez bien, et puis donc on se retrouve à la rentrée. Salut !